RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous.
Nous sommes en compagnie de Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre, vous êtes spécialisé dans les addictions. Alors justement, souvent on parle de la passion comme quelque chose de très noble qui nous permet de nous sortir de notre train-train quotidien. Est-ce qu'au fond, la passion et l'addiction ne se touchent pas? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de frontière assez fine entre les deux? Et à partir de quand on va passer de l'un à l'autre?
Tout à fait, il y a une frontière très très étroite entre la passion et l'addiction. On peut être passionné de musique, on peut être passionné, je sais pas, de son travail, ou on peut être passionné d'animaux, etc. Et tout d'un coup, si on peut basculer dans l'addiction, ça va devenir très très excessif, et que, si vous voulez, toutes nos pensées et nos actes vont être très très obsessionnels, tout va tourner autour justement que de ça, en mettant finalement tout le reste de notre vie de côté, et souffrir quand on pourra pas, pouvoir assouvir sa passion, en fait. Mmh. Donc la frontière est vraiment extrêmement étroite. Et la passion amoureuse, le parallèle, le côté parallèle avec l'addiction est vraiment une très très belle description. Hein.
Nos chatteurs ont peut-être beaucoup de questions à vous poser, Cyril.
Oui, j'en ai sélectionné une d'un chatteur qui se masturbe seulement devant les films porno. Alors il ne trouve aucun intérêt à se masturber sans. Est-ce qu'on est dans l'addiction?
Souvent, oui. La masturbation devant les films porno, on est souvent dans l'addiction, non?
Se masturber devant un film porno, c'est quelque chose de standard. Après, il faut pas dépasser la limite autorisée par la maladie, en fait.
C'est quoi la limite autorisée par la maladie?
C'est au minimum 5 fois par jour. Mais on peut très bien en retrouver. Enfin, moi, j'ai soigné un patient il y a pas très longtemps qui se masturbait 50 fois par jour et qui allait plus à la faculté parce qu'il avait plus le temps.
Oui, faut le comprendre. Voilà. Oui, c'est sûr que 5 fois par jour déjà, ça commence à être conséquent. Alors justement, Benjamin, à propos, c'est Benjamin qui est avec nous et qui se masturbe vraiment 5 fois par jour. Bonjour, Benjamin.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc 5 fois, on va voir, hein, 22 ans, vous êtes jeune.
Oui, oui. Et c'est vrai que j'ai une pratique excessive de la masturbation. Moi, j'en vois pas au quotidien le problème, mais à long terme, ça en est un, en fait. Ça en est un parce que ça en est devenu excessif, en fait. Et surtout que quand après j'ai des relations, j'arrive pas forcément... À avoir les mêmes sensations. Je me suis tellement habitué à le faire d'une certaine façon, en fait. Mmh. Et tout est très dans la pensée, en fait. C'est-à-dire, je le fais vraiment pas mal de fois, et c'est surtout, et c'est comme un besoin, donc.
Et c'est toujours avec le même rituel?
Oui. Mmh. Complètement, oui. C'est, surtout le matin et le soir, en fait, avant de. Et je peux l'enchaîner plusieurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est devenu. Il n'y a pas un jour où je ne peux pas le faire depuis très longtemps maintenant.
Et justement, il n'y a jamais eu de jours sans.
Non, pas non. Vraiment.
En plus, ça fait perdre la mémoire.
Non, pas à ce point-là.
Et quel est votre rituel? Enfin, sans être intrusif, hein, mais quel est votre rituel? Puis vous dites, c'est très ritualisé.
Bah, c'est. Tout est dans la pensée, c'est-à-dire j'ai des pensées qui me viennent, voilà. Je le fais évidemment pas à l'extérieur de chez moi, en fait. Hein. Ça c'est quand même voilà. Je le fais que chez moi, mais tout est dans la pensée, en fait. Et enfin, j'ai pas besoin de films ou de choses comme ça, pas du tout. Mais et j'ai besoin de le faire plusieurs fois avant de m'endormir, vraiment. Et idem le matin, en fait, voilà, c'est très... Et parce que j'ai développé vraiment une sexualité très personnelle, et moi, j'en vois pas le drame, en fait, mais c'est vrai que quand je me rends compte que je rentre dans le critère de l'addiction.
C'est-à-dire qu'en fait, du coup, vous n'avez pas spécialement envie d'aller rencontrer une femme et de faire l'amour avec. C'est peut-être là où ça peut poser un souci pour votre vie affective.
Oui, voilà, plus ou moins. Enfin, ça se passe assez bien. Bon, en ce moment, j'ai pas de relation fixe, en fait. Ça se passe plutôt bien. Ça peut avoir paradoxalement quelques avantages de pouvoir le faire plusieurs fois d'affilée, en fait, avec les femmes. Mais donc, ça peut avoir un avantage. Mais c'est vrai que finalement, je préfère parfois au lieu de provoquer une rencontre, je me contente de la simplicité de le faire seul, en fait. Ouais.
Et est-ce que vous aimeriez en parler à quelqu'un?
Bah, j'en ai jamais vraiment... C'est pas un sujet que j'essaye d'aborder très souvent, mais oui, j'aimerais peut-être...
Attends, j'entends un spécialiste, ouais.
Voilà, oui, peut-être. Bah, pourquoi pas, vraiment, voilà. Sans dramatiser.
Tout à fait, ça arrive que les gens viennent juste pour avoir des informations sur quelque chose qui pense que ça peut devenir compliqué un peu plus tard. Hein, donc,
Parce que là, moi, j'ai la sensation comme ça, à vous écouter, Benjamin, que vous n'êtes pas encore complètement ce qu'on pourrait appeler dans une addiction qui vous fait souffrir, qui vous met en danger. Bon, on est en effet à la frontière, me semble-t-il.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Et surtout quand je suis avec une petite amie quand je l'étais avec elle, bah en fait voilà, c'est-à-dire je le faisais autant, même si même quand je peux être amené à être en couple, je le fais autant, ça peut pas ralentir quoi.
C'est là où on voit qu'en effet c'est quelque chose qui est devenu votre drogue, alors que normalement si vous étiez avec une femme avec qui vous faites l'amour très très fréquemment, bon. Ça aurait dû s'estomper un petit peu. Oui. Et vous avez repéré quand ça s'est mis en place?
Oui, vers l'âge de 16 ans.
Mm-hmm.
Voilà.
Au moment de l'adolescence, donc.
Du coup, il y a une certaine continuité depuis. Bon, après... voilà, donc j'aimerais bien, finalement... Donc, il faudrait que essayer de faire en sorte d'oublier ça, en fait, parce que j'arrive pas à ne pas y penser un peu. En fait.
Faudrait venir en parler avec quelqu'un, sans pour autant croire qu'on est malade, etc. Mais en parler,
oui, voilà.
Et puis il y a aussi des informations et quelques petites techniques comportementales qui aident un peu à réguler tout ça. Hein.
Vous pouvez nous donner comme ça deux trois indices, Laurent Carilla, pour ceux qui écoutent et qui, comme Benjamin, sont pas complètement malades, mais peuvent simplement avec deux trois bonnes indications, peut-être, avancer seul.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien de venir voir quelqu'un pour avoir des informations sur qu'est-ce qui pourrait se passer, en fait. C'est le premier point. Donc ça, c'est l'information très très brève. Et après, les petites techniques, c'est un peu tenir un espèce d'agenda de bord où on note le nombre de fois où on passe à l'acte, où on a un acte masturbatoire, quand, et surtout quelles émotions on a après et avant. Et en fait, finalement, ils ont un calendrier, disons, sur mensuel, où ils voient ce qui s'est passé, et souvent, ça fait réfléchir sur une réduction des consommations, je veux dire.
Oui. Mm-mm. D'accord, à voir, essayer. Pourquoi pas, en tout cas, c'est une question de volonté, en tout, je pense, c'est vrai que voilà, j'en manque un peu de vouloir...
Alors, voilà, parce que... Il n'y a pas que la volonté, parce que si c'est qu'une histoire de volonté, les choses seraient très très simples. Non, il y a à la fois être motivé à changer peut-être un peu son comportement, mais il y a aussi essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour, hein, parce qu'il y a probablement des choses autour, sans être à... Je ne veux pas aggraver, faire l'apologie du diable, mais il y a probablement des petites choses qui peuvent être vite désamorcées, et puis... Mais encore une fois, on n'a pas l'impression que ça soit très très pathologique chez vous. Hein.
Non, voilà, parce que j'essaye de le relativiser, de le positiver, en fait, parce que déjà, jamais on considère que c'est mauvais, déjà, c'est absolument meilleur. Au contraire, c'est souvent dit que c'est, meilleur pour la santé, je sais pas. Et puis, mais c'est vrai qu'après, en fait, c'est vraiment le problème de l'habitude, après, en fait, et de l'habitude très excessive, comme ça...
Ben, si vous rencontrez une femme avec qui vous êtes vraiment bien et que tout d'un coup elle se rend compte que le soir après avoir fait l'amour avec elle, vous allez retourner vous masturber deux fois par exemple dans la salle de bain, ça peut vraiment mettre votre couple en danger, en fait. C'est ça, tant que vous êtes seul après tout. Je crois que c'est là où ça vaut le coup de vous pencher un petit peu sur votre comportement et essayer d'essayer tout simplement de réguler tout ça. Mais je crois que on est d'accord, hein, vous n'êtes pas complètement addict au sens profond du terme. Merci de votre témoignage, en tout cas, Benjamin. Merci bien.
Au revoir.
On continue avec Stéphanie qui est avec nous. Stéphanie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Vous avez 28 ans et votre ami s'est inscrit sur un site de rencontre.
Voilà, alors tout pour vous expliquer, je suis donc dans le sud, lui habite sur Paris, il redescend donc une fois par semaine. J'ai découvert il y a 2 mois qu'il était inscrit sur un site de rencontre. Alors là, donc il m'a dit que ben c'était la distance, qu'il avait besoin de rencontrer du monde donc sur le nord. Et j'ai appris il y a 15 jours, donc c'était bien qu'il s'était bien inscrit sur un site de rencontre qui est payant, qu'il a échangé donc avec une jeune fille qui l'a invité à dîner visiblement. Et ce qu'il y a de plus surprenant, et c'est pour ça que j'appelle, hein, c'est qu'il me dit en fait c'est du voyeurisme qu'il fait, parce que en consultant les profils, c'est ce qui m'excite. Voilà. Donc je me pose beaucoup de questions. Visiblement, il n'avait pas l'intention de me tromper.
Alors, le voyeurisme, c'est pas une addiction. Le voyeurisme, c'est ce qu'on appelle. Enfin, le voyeurisme, c'est pas une addiction. Je vais pas rentrer dans les détails compliqués. Le voyeurisme, c'est pas une addiction. Mais ont été décrits par certains chercheurs américains le côté séduction compulsive. Enfin, le côté séduction et addiction à la séduction, en fait. Vous voyez.
D'accord.
Et Internet est un support, de par les sites de rencontres par exemple, est un support qui est extrêmement accessible pour ça. Mais ceci dit, les séducteurs compulsifs passent la plupart du temps, quasiment tout le temps, à l'acte. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc là, on est dans quelque chose de très fantasmé, je pense, plutôt. C'est très, très voyeuriste, etc. Moi, je ne peux pas vous dire à 100% qu'il n'y a pas de risque. Mais on n'est pas dans ce qu'on vient de décrire, un processus très addictif, très très maladif.
Mais ce qu'on peut imaginer, Stéphanie, c'est qu'il se sent un peu seul, un peu abandonné, et il a compensé comme ça. Ça ne veut pas dire que ça excuse tout, hein. Donc peut-être qu'il a... Moi j'ai toujours tendance à dire dans ces cas-là, peut-être qu'il a besoin d'être plus souvent en relation avec vous. Peut-être qu'il y a... Faut communiquer un peu plus par chat, ou vous voyez.
Ben, j'ai beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui est très renfermé. J'ai appris ça parce que j'allais le quitter, donc je pense qu'il a décidé de me dire la vérité. Mais même les raisons pour lesquelles il l'a fait, je l'ai pas jugé sur ses actes ni quoi que ce soit, bien que ce soit quelque chose qui ne se fasse pas, puisque quand on est avec quelqu'un, on s'inscrit pas sur un site de rencontre. Mais c'est vrai que il en parle pas. Voilà, c'est vrai, c'est très difficile de dialoguer avec lui. Et pour l'aider, donc là, je n'ai pas jugé, quand il est tout seul, à partir du moment où il me respecte, il peut faire ce qu'il veut. Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment l'aider.
Vous êtes en couple depuis combien de temps?
Depuis 8 ans.
Ah oui, quand même, c'est donc un vrai couple. Et vous êtes séparés depuis combien de temps, à distance en tout cas?
À distance, ça fait 1 an et demi.
Et ça va durer combien de temps encore?
Ça va durer encore 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans.
Ah oui.
Maximum. Oui.
Donc on pourrait imaginer que c'est quand même la distance qui a fait qu'il a été sur ce site.
On n'a jamais habité ensemble non plus. Donc c'est vrai qu'avant, on se voyait plus régulièrement. Il y avait quand même un petit quotidien, entre guillemets. Mais maintenant.
Il a du mal à s'investir, en fait.
Oui, c'est ça.
Écoutez, moi j'admire votre tolérance et votre indulgence, mais je crois quand même que il a besoin de se sentir sous contrôle, je dirais.
Oui, tout à fait. Ouais, complètement.
D'accord. Moi je crois pas qu'il faut accepter qu'il reste sur ce site.
Mais j'ai essayé de regarder, j'ai aucun moyen de le vérifier, je n'ai que sa parole, donc c'est vrai qu'après...
Non, mais vous savez, c'est comme, je vais dire une chose qui va peut-être vous surprendre, mais c'est un peu comme les enfants. À partir du moment où on a dit à son partenaire que pour nous c'était quelque chose d'interdit, s'il y va quand même, il sait qu'il désobéit et qu'il transgresse quelque chose, c'est pas la même chose. Alors que si vous ne dites rien, quelque part vous lui donnez le feu vert.
Mais là, je lui ai dit, de toute façon, la prochaine connexion, c'était fini entre nous, je ne supportais plus parce que ça me rend malade, c'est insupportable quand même, parce que malgré tout,
d'accord, donc vous lui avez bien... Donc vous lui avez bien signalé que pour vous, c'était quelque chose qui était interdit.
Voilà, donc maintenant, je ne sais pas s'il faut que je lui répète tout le temps, s'il faut en parler, puis en parler, je ne sais pas quelle attitude avoir par rapport à...
Il faut mettre un terme à cette pratique. Après y a, vous pouvez vous faire aider en couple par des spécialistes, des thérapeutes de couple qui peuvent aider à reconstruire un peu les choses, enfin voir où il y a eu une faille. Mais là, je pense que la première étape, c'est de de suspendre cette activité-là, parce que sinon, vous allez tous les deux, enfin, droit dans le mur.
Oui, parce qu'il me dit qu'il n'a rien à me reprocher sur tous les plans, et c'est pour lui, c'est personnel, et il n'y a rien contre moi. Et que de toute façon, il ne me tromperait jamais, il ne passerait jamais à l'acte, mais...
On peut trouver d'autres activités de substitution que les sites de rencontre.
D'accord. Bon, ben, vous faites me confirmer ce que je pensais, alors. D'accord.
Oui, qu'il aille jouer au bridge.
C'est ça.
Voilà.
D'accord.
Merci.
Écoute, en tout cas, je vous remercie.
Je vous en prie, Stéphanie. Merci. Merci à vous. Et je vous propose bien qu'on joue ensemble avec RMC et le club Marmara. Nous avons donc trois auditeurs qui ont été tirés au sort et qui ont choisi un transat. Et on va voir si l'un des trois partira. Alors, Moïse est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Brigitte.
Quel numéro avez-vous choisi ?
J'ai choisi le 8.
Le 8. Eh bien, vous retrouvez Jean-Michel Larquet, donc, qui vous offre évidemment ce magnifique serviette de plage. Voilà. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous, Moïse. Merci.
Merci.
Au revoir. Au revoir. Et Christiane également a été tirée au sort et vous pouvez choisir un transat. Bonjour, Christiane.
Bonjour, Brigitte.
Quel numéro avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi le 11.
Le 11. Eh bien, il y a déjà François Sorel sur ce transat. Donc, bah pareil, hein, on vous offre une superbe serviette de plage de RMC. Merci d'avoir joué, Christiane.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir. Et Didier également, notre troisième gagnant du jour. Bonjour Didier.
Bonjour Brigitte.
Bonjour, quel numéro vous avez choisi ?
Le 15.
Le 15. Eh bien, vous retrouvez Laetitia Barlerin, Didier.
Okay.
Bon, ça n'a pas l'air de vous plaire. Hein. Pourtant, elle est mignonne. Hein.
Ah, je n'en doute pas.
Bon, en tout cas, ce drap de plage RMC vous sera envoyé et vous verrez, il est magnifique également. Merci d'avoir joué. Tout de suite avec Louis, vous pourrez retenter votre chance. 32-16 touche 6, bien sûr. Pour l'instant, c'est notre sexy news du jour. Bernard Guérin est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, donc vous êtes l'auteur, je ne sais pas, puisqu'en fait c'est un recueil d'extraits de livres qui font l'anthologie de la sodomie, c'est aux éditions de la Musardine.
Oui, c'est paru il y a quelques jours.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque extrait de texte, vous avez donné votre commentaire, et je trouve que c'est assez... Moi, j'ai lu quelques extraits, et je trouve que c'est assez juste, c'est une vision assez précise de cette pratique qui se démocratise un petit peu.
En fait, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez personnel dans les commentaires.
Mmh, c'est vrai.
C'est-à-dire de ne pas faire simplement une présentation de l'auteur avec sa date de naissance et de décès, et puis la liste de ses textes, les années de parution, etc. Donc j'ai essayé vraiment de donner mon sentiment sur les textes en fonction de ce que j'aimais, en fonction de ce que j'aimais moins.
Alors il y a juste un texte sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi j'aime beaucoup le texte de Tony Bentley, ma réédition, et vous êtes assez dur hein, avec elle.
Oui, je n'ai pas aimé, oui, bon. C'est vrai. Mais bon, ben, il y a aussi les textes que j'ai aimés, et je l'ai dit. Mais bon, ben, je pense que l'intérêt de faire cette anthologie, c'était justement d'avoir une opinion,
opinion
propre.
Bien sûr, oui. Alors, quel serait pour vous les deux, trois meilleurs extraits qui font l'apologie de la sodomie, justement ?
Ouh là là, ça c'est un peu difficile. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont totalement inconnus, hein, aussi, que j'ai mis parce que bon...
Oui, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des auteurs très connus.
Il y a des auteurs contemporains que personne ne connaît parce qu'ils ont signé sous pseudonyme. Il y a des auteurs qui sont totalement oubliés et que j'ai connus à une certaine époque. Et puis, bon, il y a des grands auteurs, il y a des grands auteurs classiques comme Musset, Mirabeau, Théophile Gautier, qu'on ne s'attend pas tellement non plus, je crois, à voir dans ce genre d'exercice.
Mais encore, alors, votre préférence ?
Pour l'écriture, je ne sais pas. Comme ça, je dirais peut-être René Dunant, j'aime beaucoup. René Dunant, qui est une auteure pas tellement connue, beaucoup, qui a une vie assez passionnante et mystérieuse, et qui a écrit des romans policiers, des livres de science-fiction, qui a été journaliste, qui a été écrivain, qui a été dadaïste. Le fait de faire une anthologie comme ça, vous savez, c'est surtout un prétexte à parler de gens comme ça.
En tout cas, c'est une belle anthologie de la sodomie. Je trouve que l'ouvrage est tout à fait réussi, je le dis et je le pense sincèrement. C'est aux éditions La Musardine. Merci Bernard Guérin.
Merci à vous.
Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas. C'est une bonne manière d'introduire le sujet, si je puis dire. On se retrouve dans un instant avec notre alphabet amoureux, avec ce mot craving que nous expliquera notre invité Laurent Carilla. Et bien sûr, vous continuez à réagir au 32-16.
RMC, Brigitte Lahaye, l'amour.
Laurent Carilla est avec nous. On ne pense qu'à ça. C'est en tout cas ce que vous nous dites dans cet ouvrage chez Flammarion. Et vous allez surtout maintenant nous décoder dans cet alphabet amoureux le mot craving. Alors je ne sais pas ce que ça signifie. Voilà.
Le mot craving. Craving, c'est un mot anglais. Et je crois que c'est le meilleur, le plus beau mot et le meilleur mot pour expliquer l'addiction. C'est le besoin irrésistible, irrépressible de consommer quelque chose. Et on peut l'adapter à tout, aux drogues, à l'alcool, au sexe, au jeu, à la nourriture et même au travail.
D'accord. Donc ça veut dire c'est plus fort
c'est
que
une
tu.
Envie, c'est ça. C'est comme une envie à crever, quoi.
D'accord.
Voilà, on pourrait le résumer comme ça, une envie à crever.
Et ben voilà, on a appris un mot, mais c'est un mot qui est rentré dans le langage français ou pas,
c'est
pas vraiment
qui,
encore.
C'est un mot qui est rentré dans le langage courant médical et qui va finir, je pense, comme addiction à rentrer dans le langage courant.
D'accord.
On vous dira, j'ai un craving pour toi, j'ai un craving pour le sucre, etc.
D'accord, mais je suis sûre que ce soir, il y en a quelques-uns qui vont dire à leur partenaire, j'ai un craving pour toi, et ils vont avoir l'air intelligents, et on sait très bien que quand ils ont l'air intelligents, les femmes sont beaucoup plus prêtes à céder à leurs avances.
RMC, Brigitte Lahaye, Love Conseil.
Alors, est-ce qu'il faut revoir ses ex? Voilà le Love Conseil du jour, avec un peu de retard, vous nous en excuserez. Alors, en règle générale, un ex qui a envie de revoir sa compagne ou son compagnon, c'est parce qu'il est en mal de rencontre sexuelle. Et puis après tout, un ex, c'est pas forcément un mauvais coup. Hein, et puis on sait surtout à quoi on peut s'attendre. Ça sera simple, ça sera pas compliqué, on n'aura pas besoin de faire des trésors de séduction. En général, une femme qui veut revoir son ex, elle est plutôt en manque d'amour, c'est parce qu'elle se sent un peu seule. Et un homme, c'est plus parce qu'il est en manque de sexe. Hein. En gros, c'est un petit peu ça la tendance. Alors, je crois que c'est déjà bien d'être prévenu hein, si votre ex vous rappelle. En général, un ex qui a vraiment envie de retenter sa chance, s'il sait que vous êtes avec quelqu'un, bah, il va vous rappeler une fois de temps en temps, tous les 3 mois, 6 mois, pour prendre un peu de vos nouvelles, de manière tout à fait anecdotique, pour voir si... la place est un petit peu libre. Voilà, ça se passe comme ça. Alors pourquoi pas, après tout, ressortir avec un ex si on est seul. Hein. Ça permet de passer un bon moment. Mais je crois qu'il faut pas trop s'attendre. Enfin, faut pas se faire trop d'illusions parce qu'on recolle pas vraiment les morceaux. Et puis, ce qui n'allait pas n'ira a priori toujours pas. Il y a peu de chances que la mayonnaise prenne. Bon, ça peut permettre une vraie relation genre amitié amoureuse et qui permet donc de passer du bon temps en attendant une nouvelle rencontre. Mais je crois qu'il faut à ce moment-là être assez clair l'un vis-à-vis de l'autre, parce que parfois la difficulté quand deux ex se remettent ensemble, c'est qu'il y en a un qui y croit à nouveau très fort, ou alors qui fait payer très fort à l'autre. C'est toujours très compliqué.
Toujours très compliqué, c'est vrai.
Voilà, donc vous voilà prévenu, en tout cas faites bien après ce que vous voulez. Anthony, vous êtes avec nous, merci de témoigner en tout cas. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony, vous nous entendez? Ah, Anthony est peut-être très occupé, on imagine bien pourquoi. C'est pas grave, c'est dommage parce qu'il était à mon avis vraiment dans l'addiction, on va essayer de le retrouver. Élodie, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à l'invité.
Bonjour.
C'est Laurent son prénom.
Oui. En fait, je vous appelle parce que ça fait 5 ans que je vis avec mon ami. Donc je me suis aperçue qu'il allait sur certains sites de rencontres. Qu'il allait voir aussi sur des rencontres pornographiques. Et en fait,
Des rencontres pornographiques, c'est peut-être pas des rencontres, en fait. Hein.
Oui,
c'est un site avec des images pornographiques, parce que c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, tout à fait. Et en fait, quand j'ai vu qu'il allait sur ces sites-là, Je lui en ai parlé et tout, donc il m'a toujours nié. Il m'a toujours dit que non, il allait pas sur ce genre de site-là et tout. Et finalement, donc j'ai repéré sur l'ordinateur qu'il y allait bien. Et je me demande pourquoi il y va, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est satisfait entièrement dans le couple. Mmh. Et ses recherches, elles sont vraiment basées sur le type de femme qu'il cherche, c'est-à-dire des femmes rondes. Donc, je me demande pourquoi...
Mais des femmes différentes de vous ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas physiquement du tout comme ça ?
Si, justement.
D'accord.
Justement, je suis une femme ronde, donc ces recherches, elles sont vraiment basées sur les femmes rondes.
Bon, au moins, vous êtes sûre que vous lui convenez, que vous êtes
Oui, ça, c'est sûr, mais bon, après, je me demande pourquoi il cherche à aller voir ailleurs, il cherche à discuter, et quand je lui demande, il me dit que c'est pour lui, psychologiquement, des choses comme ça.
D'accord, on va essayer de vous expliquer tout ça, Élodie. Ce que je remarque, en tout cas, vous avez 26 ans, donc je suppose qu'il a à peu près votre âge. Ce que je remarque depuis le début de l'émission, Laurent Carilla, c'est que ça touche beaucoup de jeunes hommes qui ont moins de 30 ans.
Tout à fait. L'âge moyen est de 24 ans, plus ou moins 8 ans. Mmh. Dans les deux sens, en fait. Vous voyez, donc
Et c'est dû à l'âge ou c'est notre époque qui veut ça ?
Probablement, c'est en lien avec l'environnement. Donc notre époque, la société actuelle.
Alors qu'est-ce qu'on peut... Déjà, Élodie, c'est assez logique qu'il nie. Il y a souvent, donc, comme on le disait tout à l'heure, un peu de honte. Et donc on est dans le déni de quelque chose qui est pourtant évident.
Ce que je ne comprends pas bien, c'est... Il recherche exactement, avec d'autres supports, donc Internet... Le même modèle de femme que vous.
Ouais, bah moi aussi, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'après, c'est qu'il a une attirance pour les femmes rondes. Donc, est-ce que c'est pour combler quelque chose qu'il a pas dans le couple ou est-ce parce qu'il est frustré ou je
non,
sais pas.
Non, c'est pas à cause de vous. Soyez sûr de
clair.
Ça au moins.
Non.
Déjà.
Vous vivez ensemble tous les deux ?
Oui.
Et vous, donc il était plutôt dans l'idée au départ de il niait totalement, ce qui est complètement normal. Et tout doucement, vous arrivez à instaurer quelque chose, un dialogue autour de ça ou pas du tout ?
Bon, en fait, à chaque fois que moi je vois qu'il le fait, moi j'en mets une couche à chaque fois. C'est toujours t'as qu'à aller sur ce site-là. De toute façon, quand je m'en vais, c'est pour aller sur ce site-là. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'omnibule.
C'est devenu source de conflit permanent.
Voilà, ouais.
Et voir un thérapeute de couple, ça vous aiderait peut-être, tous les deux ?
Non, lui, il ne veut pas.
Vous lui avez proposé ?
Oui. Parce que pour moi, quelque part, c'est qu'il est frustré. Pour moi, il a une frustration sexuelle. Mais après...
Non, je ne crois pas, Élodie. Je crois qu'il a, un mal-être, il a des angoisses, il a... Et puis après, il s'est engouffré dans cette addiction, comme on faisait la comparaison tout à l'heure avec l'alcoolique.
Oui.
Après, je me dis peut-être qu'il va sur ces sites-là pour voir s'il arrive toujours à séduire, justement, pour la soif de l'interdit, comme on l'appelle. Je me demande si c'est pas pour ça qu'il va, pour voir s'il arrive toujours à séduire, si... Enfin, voilà, quoi. Je me demande pourquoi il va sur ces sites-là comme ça.
C'est possible, hein. C'est possible. Enfin, moi, si je l'avais vu en consultation, j'aurais pu vous aider un peu plus. Mais ce qui est possible, c'est qu'il soit un peu accro à ce côté très très séducteur. Mais vous, il vous a séduit via Internet aussi ?
Non. On se connaît depuis très longtemps.
D'accord. Et moi, je pense que vous restez focalisé sur des trucs qui vont vous faire souffrir. C'est je m'en vais, il va aller sur Internet, je suis pas avec lui, il va aller séduire d'autres femmes, etc. Le problème sera que centré sur vous. C'est-à-dire, ça va vous faire plus souffrir vous que lui. Moi, je pense qu'il serait bien, en tout cas, il pourrait peut-être le faire pour vous. C'est au moins aller en parler à quelqu'un.
Parce que moi, c'est limite la paranoïa maintenant.
Oui, mais c'est tout à fait compréhensible.
Je suis omnibulée par cette chose-là. C'est matin, nuit et j'en rêve la nuit.
Non, mais Élodie, je crois qu'il faut vous positionner un petit peu différemment. C'est que vous n'avez pas envie de rester avec un homme qui est sans arrêt en train d'aller sur ces sites-là.
C'est clair.
Bon, et ben ça, c'est un message clair. Donc c'est ce message-là qu'il faut, il faut lui dire. Au lieu de continuer à imaginer pourquoi il y va, qu'est-ce que ça veut dire, qu'il comprenne bien que s'il accepte pas d'aller rencontrer quelqu'un avec vous, vous risquez de le quitter. Je crois que c'est parfois, il faut aller jusque-là. Il faut avoir le courage de risquer de le perdre.
Mais je l'ai déjà menacé, je l'ai déjà prévenu.
Il n'y a rien
à faire.
Il n'est pas question de le menacer, il est question de...
C'est un ultimatum.
Ouais.
Je crois que vous savez, Élodie, on sent très bien quand on menace ou quand on pose un ultimatum. Mmh.
Mmh.
Et si vous menacez en vous disant pourvu qu'il change, mais je veux surtout pas le perdre, eh bien
voilà,
il n'a pas de raison.
Je suis un peu dans cette optique-là actuellement,
oui.
En fait.
Eh ben oui, donc il le sent et donc il n'a pas de raison de changer. C'est compliqué, vous savez, il faut accepter déjà de reconnaître son addiction. Ça demande une certaine humilité. Ensuite, il faut oser aller rencontrer quelqu'un pour parler de quelque chose qui est souvent un peu intime. C'est pas facile
c'est pas facile
pour lui. D'accepter ouais. d'aller consulter, vous comprenez?
Mais c'est vrai qu'il peut changer en se faisant aider. Ça, on peut l'aider à changer. Pas complètement.
Je lui propose et lui, c'est.
Mais je pense qu'il faudrait plutôt. Enfin, c'est compliqué à dire parce que je suis psychiatre, mais je pense qu'il faudrait lui imposer, en fait.
Mm-hmm.
Moi, c'est difficile parce que je ne peux pas me positionner comme ça habituellement.
Oui, il ne faut pas lui laisser le choix, en fait.
Oui, c'est ça. Sinon, c'est vous qui allez en pâtir, vous allez souffrir, quoi.
Oui, de toute façon, j'en souffre quelque part, j'en souffre.
Mais lui aussi, il est.
Parce que moi,
lui
aussi, probablement. De faire ce que lui, il fait.
Élodie,
je fais exprès d'aller sur ces sites-là juste pour lui faire voir que je suis capable aussi de le faire. Mais c'est à contre-cœur que je le fais.
Oui, mais c'est une surenchère qui ne... Vous savez, les surenchères dans le couple, ça ne marche jamais. Élodie, vous souffrez. Dites-vous bien qu'il souffre aussi et qu'à la limite, vous allez lui rendre service en lui imposant d'aller consulter.
D'accord.
Bon courage, Élodie.
Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne
Merci
soirée,
à vous.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant avec justement Anthony qu'on a retrouvé. Et vous continuez bien sûr à réagir au 32-16.
Brigitte Lahaye, l'amour et vous.
Nous allons du côté d'RMC.fr avec Sandra qui nous dit « Voilà, je viens de retrouver mon premier amour via un site copain d'avant, bon qu'on connaît évidemment, avec qui j'entretiens une correspondance par Internet, une correspondance très suivie. On s'envoie plus d'un mail par semaine alors qu'on s'était perdu de vue depuis 17 ans. Et je découvre dans la même semaine que mon compagnon, avec qui je vis depuis 9 ans, avec qui j'ai 2 enfants, consulte des films porno qui mettent en scène des transsexuels. Il va également sur des sites de rencontres à la recherche de transsexuels. Alors je ne sais pas s'il est déjà passé à l'acte. Ces deux événements en même temps me déstabilisent énormément et je n'arrive plus à réfléchir à cette situation. J'aurais vraiment besoin d'un conseil. Merci de me répondre très vite. Alors je crois que ça indique en tout cas une chose sûre, c'est que dans le couple, il y a eu un peu d'éloignement.
C'est probable.
Voilà, donc on peut imaginer, Sandra, que quelque part, vous êtes ensemble depuis 9 ans, vous avez des enfants, tout ça, et l'habitude, la routine a fait que vous n'êtes peut-être plus dans une passion amoureuse, et ça se comprend. Et au lieu de continuer à faire évoluer votre couple avec des objectifs communs, avec des envies communes, avec des choses qu'on fait ensemble, chacun a un petit peu été dans son jardin secret. Alors, bon, il n'y a pas de comparaison à faire, hein. Vous avez eu envie de retrouver votre premier amour, ça c'est une chose qu'on pourrait élaborer longuement. Et puis votre compagnon, il a eu envie de voir des scènes avec des transsexuels, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait élaborer longuement, mais je crois qu'il ne faut pas y voir de points communs par rapport à votre jardin secret et le sien.
Non, c'est complètement différent. Faut faire attention en recherchant son premier amour, on retourne dans l'histoire de l'ex, etc.
Et la nostalgie d'une certaine période de sa vie aussi.
Tout à fait. Pour ce qui est de la consultation de sites de transsexuels et de films avec des transsexuels, probablement que cet homme a eu envie d'avoir une espèce d'électrochoc, de stimulation sexuelle.
RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous.
Question croisée du jour. Laurent Carilla, dans votre ouvrage, on ne pense qu'à ça aux éditions Flammarion, vous parlez surtout évidemment des addictions sexuelles. Moi, je sais que vous vous intéressez également aux addictions à la cocaïne. Je voudrais que vous nous disiez laquelle et pourquoi, laquelle addiction est la plus difficile à soigner parmi toutes les addictions qui existent et... Il y en a.
Oui, il y a beaucoup d'addictions, addictions aux drogues, à l'alcool, etc. Au sexe, au jeu, à d'autres comportements comme la nourriture. Je crois que vraiment les addictions aux drogues et à l'alcool sont des addictions très très compliquées à soigner. Il faut vraiment structurer ce...
Plus que la cigarette encore ?
Cigarette, drogue, alcool, pour moi, c'est la même chose. Quand j'interroge mes patients, je leur demande quelle est la première substance que vous avez consommée, et je leur précise toujours que le tabac, c'est une drogue, hein, c'est une substance. Donc oui, oui, c'est, je dirais que les drogues les très, très addictives, c'est certainement le tabac, l'héroïne et la cocaïne. Mmh. Après vient l'alcool et les amphétamines, tout en sachant que l'alcool et les amphétamines sont aussi des drogues addictives. Mais dans cette puissance addictive, tabac, héroïne, cocaïne, c'est très fort. Et après, quand c'est entremêlé de sexe et d'autres addictions comportementales, ça devient encore plus complexe.
Et alors pourquoi c'est les plus difficiles? Parce que ça, l'organisme s'en nourrit.
L'organisme s'emballe complètement. Par exemple, prenons l'exemple du tabac. Faisons un parallèle entre le tabac et la cocaïne. Le tabac, on commence à fumer, on ne peut plus s'arrêter de fumer. Et on a besoin de fumer, on a justement ce craving pour le tabac. On a une envie irrésistible de fumer et puis tout d'un coup, on peut plus se passer de la cigarette et il y a des conséquences plus tardives avec des cancers, d'autres maladies pulmonaires ou cardiaques. Pour la cocaïne c'est une drogue très très sournoise. La dépendance ça s'installe pas comme ça, ça s'installe de manière très très progressive et très rapidement. Moi j'appelle la cocaïne une drogue très intelligente parce qu'elle va rendre accro les gens mais tout doucement. Mmh. Avec des conséquences qui sont beaucoup plus immédiates que le tabac en plus.
Et donc peut-être qu'il faudrait faire des campagnes de prévention plus importante pour...
Autour de la cocaïne
ou oui, autour ou de l'alcool, ou de du tabac ou...
Là, on voit en ce moment, enfin le tabac et l'alcool, les choses ont un peu ont globalement bougé. Et maintenant, on voit pour les addictions, les choses commencent à bouger. On voit beaucoup plus de sujets dans les médias, etc. Et puis, les praticiens spécialisés s'ouvrent au grand public. Et il y a un vrai échange, et des échanges avec les parents, les enfants, les ados, etc. Je crois qu'il faut continuer dans ce champ-là et développer cette discipline qui est l'addictologie.
À vous de me poser une question.
Qu'est-ce que vous pensez des films porno gratuits en ligne, des longs extraits de films porno gratuits en ligne et accessibles à tous?
Je pense que c'est l'hameçon hein, qui permet d'attraper le poisson qui va devenir ensuite addict. Hein, et l'inconvénient évidemment, c'est que tout le monde, même ceux qui a priori n'ont pas envie ou peut tomber sur ces images-là et donc ensuite rester un petit peu scotché. Voilà. Donc ça me paraît inquiétant. De toute façon, on le voit bien sur en ce qui concerne la pornographie, bon, que ce soit sur le câble, que ce soit en vidéo, c'est facile d'empêcher l'accès à des personnes qui n'ont pas envie d'y aller. Sur Internet, ça devient un peu compliqué et là, c'est vrai qu'il faut réfléchir.
Il faut rester prudent.
Voilà, mais c'est pas simple, évidemment, parce qu'on ne peut pas non plus. Voilà. Dominique est avec nous. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour, bonjour Brigitte. Et puis merci de prendre mon appel et puis bonjour à Laurent aussi.
Bonjour.
Voilà, je vous appelle parce que je suis un petit peu en conflit avec moi-même depuis un certain temps. C'est-à-dire, je vous explique assez rapidement. Il y a un an et demi, au détour d'un chemin en randonnée, je suis tombé sur un couple qui était en train de faire l'amour. Mm-hmm. Et puis maintenant, depuis un an et demi, je ne pense pratiquement qu'à ça. Je pouvais pas croire que ça pouvait me déstabiliser en fait à ce point, quoi. C'est-à-dire que dès que je rencontre une voiture garée au détour d'un chemin, je peux pas m'empêcher, si vous voulez, d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas un couple en train,
de
faire l'amour, quoi. Mmh. Et puis ça me prend sur mon équilibre, sur ma vie professionnelle. Enfin, c'est devenu en fait comme je vous disais à l'instant, un conflit. Je ne sais plus quoi faire, quoi.
C'est en fait en quelque sorte un traumatisme hein, que vous avez vécu quand vous avez surpris ce couple. Même si sur le moment ça vous a excité, il y a quand même à mon avis un traumatisme.
Ouais, parce que j'étais pas spécialement excité. Puis il y a des choses qu'on voit beaucoup plus clairement à la télé ou sur Internet. Donc j'ai pas spécialement vu grand chose non plus. Mais le fait de voler en fait une image ou une,
je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes senti coupable? Vous êtes senti, vous avez été un petit peu hypnotisé? Comment ça s'est passé ce moment-là?
Coupable après? Peut-être hypnotisé un petit peu sur le moment. Enfin, je pouvais pas me permettre. D'habitude, j'aurais détourné le chemin et puis j'aurais laissé en fait ce couple tranquillement. Et puis, là, il a fallu que je reste. Et puis, quand je fais l'amour avec mon époux, je pense régulièrement à ça. Et dès que le beau temps revient, je peux pas m'empêcher.
Est-ce que vous allez dans les clubs, voir les gens, faire l'amour,
non,
etc.
Non,
vous n'êtes pas voyeur naturellement.
Ah non, pas du tout, hein. Et pas du tout. Et je suis marié, deux enfants, tout se passe bien à la maison. Enfin,
mais Dominique, je crois que dans l'histoire, vous avez été victime. Et quelque part, c'est ça que vous devez, vous devez. Moi, je crois que ça vaut vraiment le coup d'aller travailler avec quelqu'un pour dépasser ce traumatisme, parce que vous avez été victime. Et, comme souvent d'ailleurs, les victimes, quand elles ont subi vraiment le traumatisme, elles se sentent coupables. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous d'arriver à dépasser tout ça.
C'est bien compliqué, ouais, tout à fait, ouais, parce que ça me traumatise, quoi, aujourd'hui. Et dans la plupart des cas, je vois pas grand chose, en fait, hein.
Allez en parler avec quelqu'un, c'est exactement, enfin, ce que dit Brigitte, c'est vrai, c'est très post-traumatique, en fait. Vous avez vécu un événement traumatisant et ça revient en boucle dans votre tête. C'est un peu, enfin, toute proportion gardée, c'est comme ceux qui sortent vivants des attentats, vous voyez.
Ouais.
C'est un peu la même chose. Ils ont vécu quelque chose de dramatique, de traumatisant, et après ils peuvent plus s'en passer, même si c'est compliqué. Vous faites des cauchemars de ça ou des rêves
non.
ou
Non, ni rêves ni cauchemars.
Ouais. C'est dommage d'ailleurs, parce que parfois les cauchemars et les rêves permettent justement d'exorciser un petit peu le traumatisme. Donc vous voyez bien que là, ça reste complètement figé, et je crois que vraiment vous avez besoin d'aide, parce que sinon vous allez trimballer ça pendant des années. Et alors surtout, allez chercher une aide comportementale rapide, peut-être même le MDR qui marche bien sur ces traumatismes-là. N'allez pas, commencez pas à chercher qu'est-ce que ça a réveillé du passé, etc. C'est pas grave, ce qu'il faut là, c'est...
Justement, c'est ce que j'allais vous demander, en fait. Comment me poser les bonnes questions pour arriver à comprendre peut-être le manque que j'ai eu quelque part pour peut-être...
Certes, mais je crois pas que ce soit utile d'aller... vous pourrez peut-être par la suite, si vous en avez envie, mais là il faut vous débarrasser d'abord de tout ça.
Oui, c'est ça,
il
faut soigner le symptôme d'abord. C'est comme si vous aviez de la fièvre. Vous soignez la fièvre d'abord et après vous comprenez la cause. Vous voyez ?
Donc d'accord.
Là, il faut soigner le symptôme. Ça prend pas longtemps, ça dépend des gens, mais c'est très très variable, mais c'est des traitements très très courts. Et après, vous pouvez, et moi j'encourage tous mes patients à aller comprendre le problème de fond, etc., sur des thérapies un peu plus longues.
D'accord.
Mais là, je crois qu'il faut vraiment virer ce symptôme, et après, essayer de comprendre pourquoi cette rencontre.
Si vous en avez envie, voilà.
Et si vous en avez envie, si vous êtes motivé, bien sûr. Mais vous m'avez l'air jeune et motivé.
Mais qui dois-je aller voir pour ce genre de...
Je pense qu'il faut aller voir plutôt des psychologues ou des psychiatres qui sont spécialisés dans les thérapies cognitives et comportementales.
Ou, encore une fois, je le rappelle, hein, l'EMDR qui peut marcher sur... on en a déjà parlé plusieurs fois, qui marche sur ces traumatismes également. Merci Dominique, merci beaucoup en tout cas. Merci Laurent,
merci.
Carilla. On ne pense qu'à ça, c'est aux éditions Flammarion. Et ben, on l'a vu, on l'a compris. Et nous, on continuera à penser qu'à ça. Demain, on sera en compagnie de Vincent Cespedes. Non, on va philosopher plutôt, puisque Vincent Cespedes nous affirme « J'aime, donc je suis ». À demain. Tout de suite, Louise Fernandez, bien sûr, je vous embrasse.